Bonjour à tous. On va aller au catéchisme ce matin, à l'école du dimanche. Je vais vous raconter une histoire. Il faut que je parle dans le micro. Il paraît que je parle doucement, alors dites-moi s'il faut que je parle plus fort. Je vais faire des efforts. En fait, on va prendre un petit peu la suite de ma précédente prédication. Et je voulais continuer à parler de ce qu'on appelle au cinéma un second rôle. Hein, la palme, le César du meilleur second rôle est attribuée à... Pour ceux qui se souviennent de la dernière fois, on avait parlé de quelqu'un dont on parle dans le fond pas très souvent, c'était Noémie, la belle-mère de Ruth. On parle beaucoup de Ruth, mais Noémie, c'était un second rôle. Aujourd'hui, on va partir dans le temps de nouveau et aller mettre un focus sur un autre second rôle. Un homme dont on ne parle jamais. C'est le juif Mardoché. Je me suis dit, tiens, j'ai été interpellée par cet homme, par l'histoire de cet homme. Et ça me fait penser à ce texte de Jacques 2, 26, qui dit « La foi sans les œuvres est vaine ». Alors, je vais vous raconter l'histoire de cet homme et puis je vais vous demander de vous laisser imprégner par le témoignage, le modèle qu'on a là dans le livre d'Esther. Il n'y a pas de grande envolée spirituelle à faire partager, mais il y a un témoignage que j'ai trouvé remarquable. Pour rappel, pour les personnes qui ne connaissent pas très bien le livre d'Esther, ça nous parle d'une page importante de l'histoire du peuple juif. Le peuple juif a été déporté depuis quelques décennies déjà dans les régions qui sont aujourd'hui Irak, Iran, Syrie surtout. Et il semble que l'histoire d'Esther se situe entre le premier retour en Palestine et le second retour, qu'une première partie du peuple juif avait déjà retourné en Israël. Mais ayant resté beaucoup dans une ville qui s'appelait Suse, qui est aujourd'hui au sud-est de l'Irak, un peu à la droite de l'Euphrate, du Tigre et de l'Euphrate. Et c'était au temps du roi Xerxès. Afin de montrer sa puissance, son orgueil, son pouvoir, ses richesses, la troisième année de son règne, ce roi organise une énorme fête et il invite tous les grands de son royaume à y participer. Et comme ça ne suffisait pas à son honneur, il a invité tout le peuple pour faire une grande fête pendant des jours, avec abondance de vin. Et en fait, il y a une petite remarque qui nous est dite au début d'Esther, mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. Oh, de notre temps, ça nous paraît normal. Mais à l'époque, on ne forçait personne à boire parce qu'on avait décrété d'une façon toute spéciale que chacun cette fois déciderait pour sa vie de ce qu'il fallait faire. Ça devait être quelque chose d'extraordinaire, de totalement nouveau, vraiment un temps de fête. Le vin aidant, tous ces hommes de la cour et leur roi décident ensemble d'obliger la reine Vasti à se présenter devant tous ces hommes. Je vous laisse imaginer, c'était pour voir sa beauté. Voilà, on n'a pas d'autres commentaires, je vous laisse imaginer de quoi il s'agissait. Mais la reine refusa de se présenter devant un parterre d'hommes ivres et lubriques. N'y avait-il pas eu ordre de se conformer à la volonté de chacun ? Ça avait été l'ordre du roi. S'agissait-il uniquement du vin ? Terrible méprise pour cette femme qui vexa son roi, l'humilia devant sa cour et devant tout son royaume. Son sort était jeté, elle fut répudiée. La grande histoire nous dit que ce roi partit guerroyer pendant à peu près 4-5 ans et fut vaincu. Il rentra défait, découragé, abattu. Alors ses conseillers se sont posé la question, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ce roi ? Eh bien, ils lui conseillèrent de se choisir une nouvelle reine, parce que dans le fond, ça change la vie. Et c'est là que commence l'histoire d'Esther et de Mardochée. On peut séparer cette histoire en trois étapes qui vont aller crescendo. Mardochée, un homme issu de la déportation, a adopté sa cousine orpheline. Esther était une petite jeune fille, on ne nous dit pas son âge, qui était orpheline et son cousin l'a adoptée, est devenu son tuteur. Je suppose qu'il y avait quand même une certaine différence d'âge pour pouvoir devenir tuteur de cette petite jeune fille. Mais c'était courant à l'époque. Les fratries étaient tellement grandes que des fois, les aînés avaient l'âge de ceux qui naissaient après. Enfin, ça ne nous est pas indiqué, on peut le supposer. Le roi décrète que toutes les belles filles du royaume lui soient amenées pour faire partie de son harem afin de choisir cette nouvelle reine. Terrible situation pour toutes ces femmes, prises à leur famille, essayées par le roi et laissées à vie enfermées dans des harems. On est quand même bien aujourd'hui, même s'il y a de quoi mettre des gilets jaunes pour beaucoup de choses, et c'est normal. Je trouve qu'on vit dans une société et on le doit à Christ, il faut le reconnaître. Esther était très belle et elle n'échappa à cette destinée. Il ne nous est pas indiqué les sentiments qui ont dû habiter Mardochée quand il dut se soumettre à cet ordre. Mais conscient de son origine et du danger que cela pouvait représenter, il lui intima l'ordre de cacher son identité. Lui-même avait-il observé cette attitude dans son quotidien avant cet événement ? Là non plus, on ne le sait pas. Il y avait beaucoup de Juifs à Suse, peut-être vivait-il dans les quartiers communs. À ce moment-là, ce qui lui importait était la sécurité d'Esther. Il nous est dit dans Esther 2, 11, « Chaque jour, Mardochée allait et venait dans la cour des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. » Évidemment, quand on parle de la cour des femmes, ce n'était pas pour rencontrer Esther, parce que c'était impossible à un homme de rencontrer une femme destinée au roi. Mais il y avait des eunuques qui s'en chargeaient et qui faisaient et qui transmettaient les nouvelles et les messages. Et cet homme est venu chaque jour dans la cour des femmes pour prendre des nouvelles de sa pupille. Et cela dura un an, parce qu'Esther a été préparée un an, jusqu'au jour où le roi l'a demandé. Elle passa la nuit avec, et elle plut au roi plus que toutes les autres, et il l'a choisie pour devenir reine. Alors Mardochée continua à venir aux nouvelles de sa pupille et à la conseiller dans cette nouvelle tâche. mais cette fois-ci devant la porte du roi. Le chapitre suivant nous indique que c'étaient les serviteurs du roi qui se tenaient devant la porte. Donc on s'imagine que Mardochée a dû se dire « Waouh, comment je vais pouvoir être au plus près d'elle pour veiller sur elle ?» Il a dû trouver un job là comme serviteur du roi pour être auprès de sa reine. Et il nous est dit qu'Esther lui était soumise comme si elle avait continué à vivre chez lui. Ce n'est pas écrit comme ça, mais en fait, il pouvait lui conseiller. Ils avaient toujours un eunuque de la reine qui venait lui donner des nouvelles et à qui lui pouvait donner des nouvelles à Esther. Donc la communication et le lien n'étaient pas coupés. Et elle tenait compte des conseils. Certainement, quand en crène, elle avait beaucoup de décisions à prendre, des choses à faire. Et Mardochée était là toujours pour la conseiller. Assis à cette porte un jour, il laissa traîner ses oreilles et il entendit parler d'un complot visant à assassiner le roi. Il en informa Esther qui en informa le roi. Les personnes ont été découvertes, ont été pendues, mais de cette façon, cela a permis à Mardochée de sauver la vie du roi. Alors, que dire de ce personnage? Je dirais que c'est avant tout un homme discret. Un homme qui est fidèle à ses engagements. Il a choisi d'adopter cette petite fille, cette jeune fille. Il est resté fidèle à ses engagements. Il était humble, sage conseiller, respectant les autorités de son pays d'adoption. C'est un beau portrait, un modèle. Les choses auraient pu continuer ainsi longtemps, mais l'histoire va obliger cet homme à bouleverser ses habitudes. Est-ce qu'on peut mettre les textes de Esther 3, 1 et 2 ? Après ces choses, je vais lire dans ma parole, dans la Bible. Après ces choses, le roi Assuérus, ou Xerxès, fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédata, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. On dirait aujourd'hui un premier ministre. À l'époque, on parlait d'un grand vizir qui avait tous les pouvoirs, ou presque tous les pouvoirs. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi, donc on retrouve cette porte du roi, fléchissait le genou et se prosternait devant Aman. Car tel était l'ordre du roi à son égard. C'était à la demande d'Aman. Il le valait bien que tout le monde se prosterne devant lui. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Là, il y a une cassure. Là, il se passe quelque chose. Mardochée, l'homme discret, respectueux, soumis, est placé devant un choix terrible, se prosterner devant un homme ou désobéir à son Dieu. On se rend compte que c'était un homme entier dans sa foi. À cette époque-là, je suppose qu'il devait savoir ce que cela représentait. Il y avait eu des antécédents dans les décennies précédentes avec Daniel, avec les trois hommes et il y avait le feu là, la fournaise. Donc on peut supposer qu'en homme intelligent, il savait à quoi il s'attendait. Mais c'était un homme d'une telle droiture, tellement entier, qu'il a choisi de refuser de plier le genou devant Aman. Et les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, dirent à Mardoché : « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Et comme ils le lui répétaient chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent un rapport à Aman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Il y a des situations où on ne peut pas taire notre identité, où on est confronté à des circonstances, on ne les cherche pas, on ne les provoque pas, elles sont là, elles nous emmènent loin. C'est vrai qu'aujourd'hui en Europe, on a ce privilège immense que cela ne nous coûte, entre guillemets, pas forcément beaucoup de choses, mais dans les trois quarts du monde, ça coûte d'être chrétien aujourd'hui. Ça coûte très, très cher. Là aussi, ça peut être un sujet de reconnaissance. Si vraiment vous ne savez pas pourquoi dire merci à Dieu, au moins dites-lui merci pour la liberté qu'on a aujourd'hui. Et le drame arriva. Aman, furieux, vexé, résolut non seulement de tuer Mardoché, mais en même temps tout le peuple juif. Comme je disais tout à l'heure, car dans le fond, il le valait bien. Sa gloire, sa puissance n'auraient pas été dignes d'un seul homme. Non, il lui fallait tout le peuple juif. On pratiqua l'astrologie, on jeta un sort sur le peuple d'Israël pour savoir à quelle date on allait pratiquer ce génocide. On informa le roi qui, sans y réfléchir, agréa ce choix et fournit même le financement pour tous les fonctionnaires chargés d'exécuter le peuple juif. Le choix de Mardoché de rester fidèle à son Dieu eut un tel retentissement qu'il n'avait pas dû penser que ça puisse aller aussi loin. Choisir d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes a vraiment un coût. Le chapitre 4 nous dit que Mardoché fut dans une désolation terrible. Si on peut voir les versets 10 à 17. Il ne savait plus que faire, donc il est parti chercher conseil et signaler la chose à sa filleule, à sa pupille Esther. Mardoché lui fit savoir tout ce que Aman avait décidé de l'édit qui avait été décrété par le roi de tuer tous les Juifs. Et il lui donna aussi une copie de l'édit au verset 8, publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et qu'il lui fasse tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hatak vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Et celle-ci de répondre à partir du verset 11. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther : Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, Le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Instant dramatique, instant crucial, le tête-à-tête entre Mardochée et sa pupille, avec des décisions majeures. On ne peut pas entrer dans la présence du roi sans y être agréé et vivre. Peut-on entrer dans la présence du Dieu 3 fois saint et vivre? Non. Parce que sa sainteté ne supporte pas notre nature de pécheur. C'est pourquoi nous pouvons entrer dans la présence du Dieu Tout-Puissant à cause de Jésus-Christ et du vêtement de sa grâce. On a de la peine dans notre monde aujourd'hui à donner du relief à tout ça, et je trouve que cette pratique de l'époque nous aide à la comprendre et là aussi à se dire, mais quelle grâce extraordinaire de pouvoir entrer dans la présence de Dieu et qu'il soit devenu notre Père en plus. C'est extraordinaire. Cette fois, Esther ne peut plus cacher son identité, ni qui elle est, ni ses origines. Et au verset 17, on a une mention qui tourne un peu la situation. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. C'est lui maintenant qui obéit à ce que lui dit Esther. Le jeûne et les prières vont permettre à Esther de trouver la force de se présenter devant le roi, de lui dire qu'elle est juive, de trouver la stratégie adaptée pour lui faire comprendre la situation. Le fruit de la prière produit les paroles de direction, les paroles de sagesse. Comment procéder? Comment je dois agir dans cette situation-là? Et là, on en a vraiment un exemple typique. Elle a certainement reçu de la pensée de Dieu la façon dont il fallait procéder. Vous aurez tout loisir de lire cette méthode à la maison parce que c'est intéressant. C'est aussi typique de la culture de l'époque. Mais elle a reçu de la sagesse pour le faire. Et le Seigneur a agi aussi étonnamment en donnant une nuit d'insomnie au roi. Impossible de dormir. Donc il s'est dit, je vais prendre un bouquin et puis je vais leur lire. Et il demanda de reprendre les histoires des quelques années précédentes de son royaume. Et c'est là tout d'un coup qu'il a lu une histoire, un événement, un homme à la porte du roi qui lui a sauvé la vie parce qu'il a dénoncé un complot contre lui. Cet homme, c'était Mardochée. Ah, il s'est dit, quand même, cet homme-là, il m'a sauvé la vie, il faut que je l'honore. Le lendemain matin, réveil, il appelle Aman, son premier ministre. Qu'est-ce que je peux faire pour honorer un homme? Ça doit être moi. Donc tu le mets sur un cheval, des beaux vêtements, tu vas dans la rue, puis tu dis, voilà l'homme qui a sauvé ma vie et qui mérite d'être honoré. Très bien, bah tu vas aller faire cela pour Mardochée. Les renversements de situation, le fruit du jeûne et de la prière, le décret de Dieu sur cet homme était écrit. Il a été obligé de s'humilier devant celui qui refusait de plier le genou devant lui. C'est lui qui a dû aller dans les rues de Suse pour l'honorer. S'en est suivi les repas préparés par la reine pour avertir son roi qui a compris toute la situation et qui a décrété la mort d'Aman. Et voilà, l'ennemi des Juifs a été détruit. D'une façon, il n'y a que Dieu qui peut agir de cette façon-là. Mardochée était un homme droit dans sa foi aussi. J'ai trouvé que c'était un homme aussi capable de cette soumission mutuelle. Pendant longtemps, il a donné des conseils à Esther, et un jour, c'est elle qui lui en a donné. Et il a eu suffisamment d'humilité pour les recevoir aussi, pour les mettre en pratique. Ça me rappelle aussi des qualités à vivre dans l'Église, de la soumission mutuelle. C'était aussi un homme humble, et ça me rappelle ce texte de Philippiens 2, 5 à 8. Des sentiments qui étaient en Christ, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à s'arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Nous avons chez Mardochée ces traits de caractère, de l'humilité. Il aurait pu faire valoir beaucoup de droits auprès de sa reine, mais ça n'était pas le cas. Pour la troisième étape, nous voyons Mardochée. Donc, les événements se sont produits. Aman est mort. Et Mardochée, au travers d'Esther, est présenté au roi, qui lui remet le sceau de premier ministre que possédait Aman. C'est extraordinaire. Et Esther et lui réussirent à convaincre le roi de rajouter un décret supplantant l'autre afin que le peuple juif fût sauvé. Un décret royal ne pouvait pas être annulé, il devait s'exécuter. Donc il fallait qu'il y ait un autre décret qui vienne couvrir celui-là. Le salaire de notre péché, c'est la mort. C'est un décret qu'on ne peut pas supplanter. C'est cette séparation d'avec Dieu définitive. Mais il y a eu un autre décret, celui de Jésus-Christ, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, qui vient couvrir le premier décret et qui va nous permettre de recevoir la vie éternelle et une réconciliation extraordinaire avec Dieu. C'est alors que Mardochée institua une des fêtes juives, la fête des Pourim, en mémoire de ce jour, et il fut élevé en dignité. Alors au verset 10, chapitre 10, verset 3. Car le juif Mardochée était le premier après le roi Assuérus. Considéré parmi les juifs et aimé de la multitude de ses frères, il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. D'un homme effacé, discret, il est devenu quelqu'un élevé au rang le plus élevé. Et je pense beaucoup à ce texte de Matthieu 25, la parabole des talents. Si tu veux, 25-21, si tu veux le mettre. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Alors, nous avons là une page, comme je le disais, importante de l'histoire du peuple juif. Mais pour mieux encore la comprendre, il s'est passé là quelque chose de très particulier. Et il faut revenir dans les siècles précédents de l'histoire du peuple d'Israël. Dans Esther 2, au verset 15, il nous est dit que Mardoché était fils de Kis Benjamite. Kis était le père du roi Saül. Donc, Mardoché, Benjamite, fils de Kis, était un arrière-petit cousin, on peut dire, de Saül. Il était de cette lignée-là. Il nous est dit qu'Aman était Agagite. Le roi Agag était un Amalécite. Amalek, au temps de... Il faut remonter très loin, entre Jacob et Ésaü. Ésaü a eu plusieurs descendants, et un des descendants d'Ésaü était Amalek, d'où le nom d'Amalécite. Et lorsque le peuple d'Israël, avec Moïse, a quitté l'Égypte et remonte en direction d'Israël et arrive proche de la terre promise, dans Exode 17, les chapitres 8, les versets 8 à 15, il nous est dit « Amalek vint combattre Israël à Réphidim ». Alors Moïse dit à Josué « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » C'est l'histoire où Josué se bat contre les Amalécites dans la plaine. Moïse est sur la montagne et quand il a les mains levées, il gagne. Et quand il est fatigué et qu'il a les mains baissées, il perd. C'est pourquoi Hur et Aaron sont venus lui mettre une pierre pour qu'il s'asseye et lui ont tenu les bras jusqu'à la victoire. Mais au verset 14, il est dit « L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Quelle parole, Dieu! Parce que ce peuple, les Amalécites, avaient levé la main sur le trône de l'Éternel. C'était grave. Ils avaient empêché, ils étaient tombés sur le dos des Israélites. Dans la bénédiction forcée de Balaam, nous lisons au chapitre 24, au verset 7, « Son roi s'élève au-dessus d'Agag. » Le roi d'Israël s'élève au-dessus d'Agag. Donc là, il y a une mention de nouveau de ce roi Agag, roi des Amalécites. Et on retrouve, alors est-ce que j'ai pas marqué les versets, mais je vais les citer. Et on retrouve Israël en guerre avec Amalek via l'ordre que Dieu donne à Saül d'accomplir la parole de l'Éternel à l'égard d'Amalek. Samuel se souvient de cette parole de Dieu et il se dit, elle n'est pas totalement accomplie, il faut l'amener à son terme. Il donne l'ordre à Saül d'aller combattre Agag et les Amalécites, avec l'ordre de tout détruire. Mais Saül désobéit. Il garde en vie Agag, le roi, il prend les biens et il rompt la promesse qu'il avait faite à Samuel. Et en fait, c'est à ce moment-là que Saül va perdre sa royauté. Donc, on se rend compte, on ne sait pas comment Aman est arrivé à Suse, Aman l'Agagite est arrivé à Suse, mais en tout cas, au-delà de l'histoire de Mardoché et d'Esther, Dieu a accompli bien des siècles après cette parole, et Mardoché en a été l'instrument d'obéissance à Dieu. Et je crois que on ne sait pas si Mardoché connaissait cette parole. Et bien souvent, il a dû se demander pourquoi toutes ces histoires, pourquoi ce destin de vie aussi particulier. C'est très étrange parce que Dieu, lui, il n'avait pas oublié sa parole. Et tôt ou tard, elle s'accomplit, même s'il a fallu du temps pour qu'elle s'accomplisse. On discutait de pouvoir mettre ce mot « pourquoi » en français tellement... Je trouve que c'est un mot tellement riche parce qu'on peut dire « pourquoi » en un mot dans nos situations difficiles. Et c'est normal. Pourquoi ? Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi tu permets des situations comme ça ? Et je pense que c'est tellement important de basculer et de dire « mais pourquoi ?» Quel est le sens que tu veux donner à ce que nous sommes en train de vivre? Et dans cette histoire d'Esther et de Mardoché, on a une réponse. Parce que des siècles auparavant, Dieu avait donné une parole et qu'il fallait l'exécuter. Et que la victoire de l'obéissance sur ceux qui s'opposent à l'œuvre de Dieu, un jour, elle se fera. Et je pense que en Christ, prophétiquement aussi, que ce soit pour Israël ou que ce soit pour les chrétiens ou pour ceux qui sont en Jésus-Christ, même s'il y a des siècles que l'œuvre de Christ s'est passée, elle s'accomplit encore aujourd'hui et elle ira forcément à son terme. Parce que ce que Dieu a dit, même il y a des siècles en arrière, s'accomplira forcément. C'est pourquoi, voilà, j'ai trouvé que cette histoire de ce second rôle, de cet homme Mardoché, de ce caractère, de ce tempérament, de ses qualités, m'ont beaucoup marqué. Et je voudrais juste conclure, comme la dernière fois, le César du second rôle est attribué à personne. Comme m'a dit ma fille, c'est un piège. Oui, c'est un piège. Parce que en Dieu, il n'y a pas de second rôle. En Dieu, nous sommes tous au premier rôle. Parce que nous sommes uniques, je ne peux pas avoir de second rôle. Je ne peux avoir qu'un premier rôle. L'important, c'est que j'entre dans l'appel de mon Dieu. C'est ça l'essentiel. Il appelle si je dis oui, comme Mardoché, j'entre dans ma destinée, dans celle que Dieu a préparée pour moi. Et il ne peut pas y avoir de second rôle. Désolé pour ceux qui se disent « oui, mais moi je suis rien ». Non! Il n'y a pas de second rôle. Nous sommes tous uniques et premiers pour Dieu, parce qu'il nous aime en tant qu'être tout entier et que son appel et sa destinée pour chacun et chacune est pleine et entière. Et je trouve que c'est si l'histoire de Mardoché peut peut-être vous rappeler des choses parfois, des modèles de vie comme ça, je trouvais que ça faisait du bien. Amen.